Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673-1716, prophète, point d'interrogation, c'est le thème de la conférence de Don Maurice Franc, enregistrée le 23 novembre 2017 lors d'une récollection de l'amitié montfortaine en l'église Sainte-Thérèse de Biarritz. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, prophète, point d'interrogation, Don Maurice Franc.
Eh bien, je suis heureux de commencer cette journée de réflexion et de récollection à la demande donc de Chantal Poulot et de l'amitié montfortaine. Et je vous salue, vous qui êtes là, merci beaucoup de cette présence, de ce désir d'approfondir votre foi. Et je salue au passage les auditeurs de Radio La Pourdie qui, par les moyens de la technique, eh bien, vont pouvoir recevoir aussi le petit enseignement que je vais essayer de vous transmettre à travers cet entretien. Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort, prophète. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que cet homme qui a vécu il y a environ 300 ans, puisqu'il est né en 1673, a vu son rayonnement complètement s'éteindre à sa mort. Et déjà avant sa mort, il y avait eu un certain nombre de spots qui s'étaient éteints parce que il dérangeait. Et il va falloir attendre 200 ans avant que certains de ses écrits soient retrouvés et que peu à peu, il retrouve une vraie place dans l'Église et que se pose même la question de savoir s'il ne pourrait pas être proclamé comme docteur de l'Église, c'est-à-dire comme étant un maître particulier dans l'enseignement de l'Église. Et on peut penser que si cela ne s'est pas fait, c'est pas simplement parce que son vocabulaire est quelquefois un peu fort, mais aussi parce qu'en prophète, justement, il dérange, et que 300 ans après sa vie terrestre, bien qu'il soit lui maintenant dans la vie du ciel, nous le savons bien, peut-être qu'il nous dérange encore aujourd'hui, et que cette église institution, cette église officielle qui l'a dérangé, dont certains de ses membres l'ont poursuivi, les évêques qui ont fait détruire les calvaires qu'il avait fait construire, etc. Et bien, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes encore un peu dérangés par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et que nous avons du mal à l'admettre dans l'enseignement de l'église, parce que ce zèle dévorant fait toujours un peu peur. Et que nous avons l'impression que un certain consensus, ce serait quand même mieux. Si on regarde ce qu'est un prophète tout au long de l'Ancien Testament, si on regarde celui qui est le prophète par excellence, à savoir le Seigneur Jésus, et si on regarde tout au long de l'histoire de l'Église, tous ceux qui, dans la ligne de leur baptême, furent prophètes, parce que nous avons tous à être prophètes, rois et prêtres, par notre baptême, eh bien nous nous rendons compte qu'il est tout à fait à sa place, et que loin d'être seulement un illuminé ou un exalté, eh bien il porte le feu de l'Évangile. Mais il faut commencer évidemment par savoir ce qu'est un prophète. C'est important. Nous sommes devant, d'abord, un phénomène un peu général dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle des oracles. Des gens qui prédisent l'avenir. Et dans notre mentalité, dans notre tête, le prophète, c'est ça. À ce moment-là, on pourrait dire que Madame Irma, avec sa boule magique, est prophète. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc la prophétie, c'est autre chose que simplement dire l'avenir. D'abord, un prophète, il ne parle pas en son nom. Le prophète, c'est un ambassadeur. Il parle au nom de quelqu'un. Et si nous prenons tous ceux qui ont été considérés comme tels dans l'Ancien Testament, ils le disent tous. Et nous nous souvenons de Osée, par exemple, le prophète Osée, qui dit bien qu'il était bouvier, et que le Seigneur est venu le chercher au cul de ses bêtes. Alors aujourd'hui, dans la Bible, on a fait une jolie traduction, parce que on peut pas dire des mots comme ça, quand même, c'est un peu gênant, mais si on prend le terme grec, on est quand même de manière très crue. Donc c'est pas lui qui a voulu. C'est le Seigneur qui l'a arraché. Et tous les prophètes parlent de cet arrachement. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient vivre, ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu du tout. Ils ont été arrachés. Arrachés pour être envoyés. Alors, arrachés à quoi ? Mais à leur vie de tous les jours, à leur vie quotidienne, à un avenir qu'ils s'étaient prévu pour eux-mêmes. Arrachés par qui ? Par le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont laissés arracher. C'est que dans l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, lorsque le Seigneur est venu les chercher, les arracher à leur vie quotidienne, ils se sont laissés entraîner parce qu'il y avait entre eux et Dieu une vraie relation forte. Et qu'ils ont compris que cette relation forte allait être le soutien de la mission que le Seigneur leur confiait, malgré leur faiblesse, leur indignité. Allez relire les prophètes, vous verrez toujours au début, ils parlent de ce qu'ils sont. Et si nous prenons de manière plus large, par exemple, saint Paul, lorsqu'il parle de l'avorton qu'il est, il y a cette conscience que ces hommes sont véritablement en dessous de ce que Dieu leur demande, de la mission qu'il leur confie. Et c'est très important, parce que ça vient corroborer le fait que ce n'est pas la parole de ces hommes, mais qu'ils transmettent quelque chose qui les dépasse. Et le fait qu'ils n'en aient pas les capacités humaines nous fait mieux comprendre qu'ils sont portés par quelqu'un. Donc le prophète, c'est celui qui rappelle à Israël sa foi en Dieu. Il l'invite à préférer l'attention aux pauvres au strict respect de la loi. Et il fait de sa vie propre, une parole pour le peuple auquel il est envoyé. Et pour nous, dans notre tradition chrétienne, le dernier prophète, au sens strict, c'est Jean-Baptiste. Alors pourquoi dans notre tradition chrétienne ? Eh bien simplement parce que si nous pensons et croyons que le Messie, l'élu de Dieu, doit nous le trouvons totalement et en plénitude dans le Christ, c'est-à-dire dans notre Seigneur, dans Jésus, alors La prophétie au sens strict du terme de l'Ancien Testament qui est de préparer et d'annoncer la venue du Messie se termine avec Jésus. Et donc, le dernier, c'est effectivement Jean-Baptiste. Le prophète est donc le porte-parole de Dieu. Il est le porte-parole, c'est-à-dire qu'il vient dire aux hommes la parole de Dieu. Il vient leur rappeler la parole de Dieu. Si nous comprenons bien, cela veut dire que le prophète, il vient quand on a oublié Dieu. C'est important de le noter, de le savoir. Il vient quand on a oublié Dieu. Il n'y a pas besoin de prophète quand tout va bien. Et donc, quand le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple élu, le peuple aimé vit de manière plénière, l'alliance avec le Seigneur, il n'y a pas de prophète. Il n'y a des prophètes lorsque le peuple s'éloigne du commandement du Seigneur, lorsque le peuple sort de l'alliance avec Dieu. Et que vous preniez les grands ou les petits prophètes, on fait la séparation entre les deux parce que les livres sont plus importants et que apparemment, dans l'histoire du peuple de Dieu, l'influence a été plus grande. Vous connaissez les quatre grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et puis, alors, il y a les petits prophètes, je vous donne vite la liste, ils sont 12. Osée, Joël, Amos, Abdias, je suis même pas certain que ça fait partie des noms que vous avez entendus. Jonas, Michée, qui est tout petit et pourtant qui est si important, puisque c'est dans le livre de Michée que l'on trouve l'annonce de la naissance du Messie à Bethléem. Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Je suis bien sûr que si je faisais un concours pour savoir combien vous en connaissiez, eh bien, nous n'arriverions certainement pas à 12. Vous aurez quelques-uns quand même, Osé, vous l'avez entendu, Jonas, vous connaissez aussi, Miché, évidemment, les autres. Voilà. Donc, en grec, prophétesse, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et si aujourd'hui nous avons un peu fait changer le sens du terme en disant le prophète c'est celui qui parle de l'avenir, c'est parce qu'effectivement il y a dans la parole un rappel pour le présent, l'annonce généralement d'un événement proche à venir, et cette parole pour le présent et l'annonce de l'événement proche à venir est symbole pour un événement ultérieur majeur. Si on prend un exemple, prenez chez Jérémie par exemple ou chez Ézéchiel, l'événement, la parole, le peuple qui a oublié Dieu. Et donc, par une parole forte, vous prenez Jérémie, vous prenez Ézéchiel, c'est des paroles qui sont quand même relativement fortes. Un événement immédiat. Jérusalem qui va être attaqué. Qui annonce de loin la venue du Messie qui va rétablir la royauté d'Israël détruite par la chute de Jérusalem. Donc, il y a un rapport au temps qui est immédiat, c'est très important, parce que Dieu est dans notre temps. Mais en même temps, Dieu porte le temps. Et donc, en même temps qu'il vient nous réveiller dans notre temps, il nous annonce un futur dans lequel le Seigneur sera au milieu de son peuple. Et si nous prenons le terme hébreu, Nabi, nous sommes toujours dans celui qui parle, avec une notion qui n'existe pas comme dans le grec, prophète. Là, il y a une notion d'inspiration, comment dire, un peu affective. Il vient parler parce qu'il y a une affection et qu'il y a un lien qui existe. Et donc il y a pour le prophète ce qui va être exprimé quelquefois violemment, mais qui déjà dans la notion en tant que telle, un amour. On vient pas proclamer simplement pour le plaisir de proclamer une destruction, de déproclamer, etc. Faisons très attention, nous avons pris l'habitude aussi que le prophète est généralement un prophète de malheur. Le prophète est toujours un signe d'espérance. Il est toujours un signe d'espérance. Même s'il annonce une tribulation. Et nous le verrons avec Jésus tout à l'heure, lorsque nous prendrons l'exemple tout simple de l'évangile d'aujourd'hui, que je me permettrai de commenter très rapidement avec vous. Donc, pour résumer, les prophètes sont là pour prédire la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on est toujours dans l'espérance. Cela passe par un réveil du peuple, par l'annonce proche d'un événement généralement désagréable, en vue de l'accomplissement de la parole par la venue, l'accomplissement de la promesse, pardon, par la venue du Messie. Et si nous prenons, si vous avez le texte devant vous, c'est encore mieux, mais je vais vous le lire. Si nous prenons le Seigneur, eh bien, nous sommes face au prophète par excellence. Et on ne peut pas parler de prophète chez Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort si on ne comprend pas d'abord comment Jésus est prophète. Pourquoi ? Eh bien parce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il n'est pas prophète simplement comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il est prophète parce qu'il est profondément uni au Christ. Et ce qu'il vit à travers sa vie de baptisé, à travers sa vie de prêtre, cette prophétie qu'il est, elle vient directement de son enracinement dans le Christ Seigneur. Et cet enracinement dans le Christ Seigneur, c'est pour lui non seulement une source personnelle de vie, d'irrigation, de vie spirituelle, de force morale, de force affective aussi, hein, dans les épreuves et les tribulations qu'il va connaître. C'est cette certitude, cette confiance, cette paix, malgré les persécutions. Et ce qui va entraîner le violent désir, hein, parce que quelquefois c'est vrai que c'est un peu énergique, le violent désir de convaincre ceux et celles à qui il est envoyé, mais pas de les convaincre comme nous essayons de convaincre les gens. C'est souvent notre problème. Nous avons toujours envie de convaincre les gens par des arguments que nous trouvons probants, etc. Mais tu devrais croire, puisque je te le dis. Ne bouge pas sur grand-chose, généralement. C'est pas tu dois croire parce que je te le dis. C'est voici ce qu'il en est. C'est l'affirmation d'une situation, l'affirmation d'un état. L'affirmation de l'amour de Dieu. L'affirmation que Jésus est sauveur. Qu'il nous délivre de la mort éternelle et de l'esclavage du péché, afin que nous soyons libres pour vivre cette communion d'amour entre Dieu et nous. Mais nous n'avons pas à chercher à convaincre. Je suis la voix qui crie dans le désert, dit Jean-Baptiste. Ne cherche pas à convaincre. Il annonce. J'ai l'habitude de reprendre toujours la petite phrase de la brave Bernadette, qui remonte de sa grotte, hein, du bord du Gave, avec cette demande de la personne qu'elle a vue, de construire une chapelle. Et elle se retrouve devant le curé Péramal, avec la fameuse réponse du curé Péramal. Mais comment veux-tu que je te croie? Et je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous l'annoncer, de vous le transmettre, de vous le dire. Et le prophète, il vit de cette manière-là. Il n'est pas tous les soirs avec un petit carnet à mettre des petites croix en disant « Aujourd'hui, j'ai converti 25 personnes. » « Ah, aujourd'hui, j'ai fait un peu moins, 14. Hein? » C'est mieux que dimanche, mais c'est moins bien que samedi. On n'est pas là. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, le fait de compter, ça va être de compter le peuple d'une certaine manière, c'est considéré comme étant un élément tellement grave que Saül, le prédécesseur de David, hein, Saül, ça va être une des raisons de l'abandon par Dieu de Saül. C'est parce que Saül il va avoir deux péchés que Dieu va lui reprocher, hein, le fait de compter le peuple. De compter le peuple. Le curé qui compte le nombre de personnes qui sont à la messe. Je le dis avec d'autant plus de tranquillité que c'est ce que je fais. Donc voilà. Hein. Bien. Hein. J'avais un de mes confrères qui comptait les communions. Lui. C'était très drôle parce que je fais juste une petite blague au milieu. Et donc le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Puis dans sa tête, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un jour, j'étais juste à côté de lui, on donnait la communion, le corps du Christ, le corps du Christ. Et puis tout d'un coup, j'entends 86, 87, 88. Jean-Marie ! Oh pardon ! Le corps du Christ, le corps du Christ, etc. Bien. Donc il y a ce défaut. Mais c'est un défaut. Pourquoi ? Pourquoi c'est un défaut ? Parce que c'est un manque d'espérance. Si nous regardons combien nous sommes aujourd'hui, à vue humaine, est-ce que ça vaut le coup de dépenser l'électricité, le chauffage, la présence d'une journaliste, etc., etc., à vue humaine, sincèrement, hein? Je ne parle même pas de mon précieux temps, hein? Mais sincèrement, à vue humaine. Donc, le fait de compter, hein, chez Saül, hein, le fait de compter, hein, c'est véritablement quelque part un manque d'espérance et un manque de confiance. Et puis chez Saül, la deuxième chose, c'était de savoir l'avenir. Donc il va aller chez une nécromancienne qui va lui prédire l'avenir. Comme elle va lui prévenir qu'il va être tué d'ici peu, effectivement, ça va pas le porter. Donc le prophète, il est là au milieu d'un peuple, il est là au milieu, il parle au nom de Dieu aux hommes. Il cherche pas à les convaincre et à les ramener dans le camp. Même si son but, c'est cela. Son but ultime, c'est évident, c'est de ramener au Seigneur. Mais il ne part pas du principe que son discours va convaincre de manière immédiate. Il veut alerter. D'une certaine manière, aujourd'hui, c'est très à la mode, vous savez, c'est les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. Donc, le prophète, quelque part, c'est un peu ça. Il vient dire et redire. Et donc, le Seigneur, aujourd'hui, tel que nous l'entendons dans l'Évangile, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, nous sommes dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 19, les versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Il y a un geste, il y a un acte. Il pleura sur elle. Vous imaginez la tête des disciples et des apôtres qui sont autour de Jésus et qui voient Jésus arrivant à Jérusalem. Or, comment est-ce qu'on arrive à Jérusalem pour des Juifs ? En chantant normalement le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Me voici devant tes portes, Jérusalem ». C'est ça, normalement, un juif qui regarde Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons vers la maison du Seigneur, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, me voici devant tes portes, Jérusalem. » Donc, normalement, c'est ça l'attitude du juif qui arrive devant Jérusalem. Et là, Jésus, il arrive devant Jérusalem et, voyant la ville, il pleura sur elle. C'est fou quand même, quelque part. Il pleura sur elle. Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Si vous écoutez les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, etc., il leur dit, mais écoutez ce que je vous dis, le Seigneur veut renouer l'alliance avec vous. Mais si vous écoutez pas, il faudra quand même en porter un peu les conséquences. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Vous voulez pas entendre, vous voulez pas écouter. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Voilà le prophète. Le prophète, il vient dire à un peuple... Le prophète, il vient dire à un peuple, Dieu te visite. Et il vient dire à ce même peuple, mais si tu n'écoutes pas Dieu qui te visite, il va falloir que tu emportes les conséquences. Or, un des problèmes que nous avons, c'est une des causes, du péché originel, c'est que nous n'aimons pas supporter les conséquences. Nous n'aimons pas assumer les responsabilités. Regardez Adam, regardez Ève, regardez. C'est pas moi, c'est elle, c'est pas elle, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est le serpent. Et là, eh bien c'est cela. Le Seigneur, il annonce, il proclame, et il dit en même temps, attention, si vous ne suivez pas les commandements, si vous ne vivez pas selon la charité, il est évident que vous allez vivre des tribulations et des épreuves. Un monde qui vivrait dans l'Évangile, un monde qui vivrait dans l'Évangile, c'est un monde où il n'y aurait pas de guerre, où il n'y aurait pas d'enfants qui mourraient de faim, de soif, de tout ce que l'on veut. Il n'y aurait pas d'enfants tués dans le sein de leur mère, il n'y aurait pas... Voilà, un monde qui vivrait selon l'Évangile. Un monde qui vivrait selon le projet de Dieu. Et si dans chacune de nos vies, nous vivions réellement selon le projet de Dieu, quelle paix nous aurions dans nos cœurs, quelle sérénité. Donc voilà, nous avons vu de manière rapide, évidemment, ce que c'était qu'un prophète, Hein? Nous avons vu de manière rapide que le Seigneur lui-même est prophète, parce que si nous prenons ce qu'il dit, il est bien évident que quelques mois après avoir pleuré sur Jérusalem et avoir dit à Jérusalem « Tu n'accueilles pas Dieu qui te visite », il va être mis à mort et crucifié et mis à mort, hein, pour le salut, pour notre salut. Mais ceux qui le crucifient et qui le mettent à mort veulent au contraire se débarrasser, hein, de Dieu. Ils n'ont pas compris que c'était justement par cela que le Seigneur allait affermir sa présence dans le monde et dans chacun de nos cœurs. Mais n'empêche que le but premier de la crucifixion, pour ceux qui l'ont voulu et décidé, hein, eh bien, c'est se débarrasser du gêneur. Hein, se débarrasser du gêneur, comme on va essayer de se débarrasser de Jérémie en le jetant dans une cisterne, on va se débarrasser d'Ézéchiel, on va faire fuir Élie, Élisée, etc., parce que pour se débarrasser de leur parole, qui est considérée comme une parole de malheur, parce qu'on ne veut pas voir l'espérance qui est derrière, si on voulait bien accueillir, hein, leur parole. Hein. C'est toute la différence entre Jonas, d'une certaine manière, hein, et les autres prophètes, c'est que il parcourt Ninive en tous sens. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et du haut en bas de l'échelle sociale, depuis le roi jusqu'au dernier des animaux, tout le monde se met à jeûner. Et donc, le Seigneur retire sa colère de Ninive. Ce qui entraîne d'ailleurs la colère de Jonas, hein, hein, qui dit, bon, quand même, sous prétexte qu'ils ont arrêté un peu ils ont fait un peu de jeûne, alors, j'ai l'air de quoi, moi, aujourd'hui? Hein? J'avais promis que tout allait être détruit, ça allait être sympa comme spectacle, non? Je promets une cinécénie assez extraordinaire, là, c'est mieux que le Puy du Fou. Et puis, tu laisses tout tomber. Hein? Et donc là, il part dans le désert, il est fou furieux, il est bon, alors le Seigneur qui est gentil lui fait pousser un arbre juste pour lui, là, un ricin juste pour lui, pour l'abriter. Et il continue à murmurer et à râler, alors le Seigneur dit, on fait crever le ricin. Alors il se remet à pleurer parce qu'on lui a supprimé son arbre, enfin bon, vous connaissez toute l'histoire. Mais le fond est le même, hein? C'est sauf que là, chez Jonas, effectivement, la prédication, elle est entendue. Elle est entendue. Mais chez les autres prophètes, et le Christ en premier, bien sûr, la persécution est généralement la conséquence de leur proclamation. Et donc nous allons voir si nous retrouvons tout cela dans la vie de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Donc nous l'avons dit tout à l'heure, il naît en 1673, c'est la fin du XVIIe siècle, hein, et il va mourir avec 43 ans plus tard, en 1716. Donc nous sommes quoi? Nous sommes sur la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui est un siècle de contraste. Il est à la fois un siècle d'une efflorescence extraordinaire de saints, et donc de sainteté. Et en même temps, on est face à un travail, d'une certaine manière, de fond de l'Église pour, entre guillemets, hein, reconquérir, on dirait aujourd'hui, rejoindre les foules, les masses, parce qu'il y a eu deux phénomènes qui ont éloigné un peu les foules de l'Église et du Seigneur. Le premier phénomène, eh bien, qui a abouti et qui a explosé avec l'apparition du protestantisme, hein, c'est la corruption de l'Église. C'est la corruption de l'Église et des hommes d'Église. Attention, je ne justifie absolument pas Luther en disant cela, mais je justifie la colère de tous les grands saints qui, eux, ont eu l'humilité de rester dans l'Église. Hein? Et on cherchait, parce qu'ils savaient que c'était l'Église du Christ, l'Église catholique et romaine, telle que le dit le Concile Vatican II, hein, ne l'oublions pas, hein, qui nous rappelle que cette Église du Christ, elle réside dans l'Église qui est à Rome. Hein? Le Concile Vatican II le rappelle de manière très, très forte et très prégnante. Mais voilà, tous ces grands saints qui vont se mettre à travailler parce que ils se rendent bien compte que l'état de l'Église, je dirais institutionnelle, un peu officielle, est lamentable. Quand vous prenez Saint Vincent de Paul qui arrive à Châtillon sur Chalaronne, là dans la Dombe, et qui voit l'état du clergé, hein, où les prêtres savaient même pas lire pour certains, et donc annonnaient un espèce de d'Ave Maria matinée de Paternoster pour dire la messe. parce qu'ils étaient incapables de lire le missel pour célébrer la messe. Donc voilà, on est tombé dans une situation qui est quand même assez catastrophique dans l'Église. Mais il faut pas s'en formaliser. Ça a toujours existé dans l'histoire de l'Église. Et l'Esprit Saint, il travaille autrement. Mais il travaille par l'Église et dans l'Église. Que ce soit les prophètes dans l'Ancien Testament, jamais ils ne remettent en cause leur appartenance au Seigneur et au peuple élu, au peuple choisi. Eh bien, les prophètes dans l'histoire de l'Église, et Saint Louis-Marie Grignion de Montfort en fait partie, ces gens-là jamais ne remettent en cause leur appartenance à l'Église de Rome, qui est le corps du Christ, le corps mystique. Mais ils comprennent qu'il faut convertir, qu'il faut sanctifier ce corps qui est, pour certaines pas, un petit peu en putrition. Hein. Quand on regarde à l'époque, c'est quand même pas jojo, hein. C'est pas jojo. Et il n'y avait pas un pape François pour essayer de secouer le cocotier, hein, parce que le pape lui-même, c'était quand même pas génial. Hein. Ah, sur la foi, il n'y avait pas de problème. Les mœurs, c'était pas vraiment ça quand même. Hein. Donc, on est face à ce peuple qui a été dégoûté un petit peu, qui est heurté, alors qu'il garde sa foi, qu'il garde sa religiosité populaire, mais en ayant une méfiance vis-à-vis de l'Église et de son institution. Et le deuxième phénomène qui arrive derrière, eh bien, c'est ce raz-de-marée du protestantisme. Qui va être une des grandes divisions de la chrétienté, hein, et à travers ce travail de sape, hein, du protestantisme pour démolir l'Église catholique afin de s'établir à la place. Alors je sais que aujourd'hui ça fait pas très très bien de dire ça, surtout qu'en plus on est dans l'anniversaire de la Réformation, etc. Enfin, voyons quand même ce que Luther, Calvin, Zwingli, etc. voulaient faire à l'époque. Ils seraient là aujourd'hui. Avec tous les textes qu'on sort sur le fait que, mais non, ils aiment bien l'Église ou tout, etc., je peux vous garantir qu'ils brûleraient tout le monde. Ils brûleraient tout le monde. Quand on sait que quelqu'un comme ce brave et cher Calvin à Genève a quand même eu une manière de gérer les oppositions qui était quand même relativement énergique par le bûcher. Donc, ayons conscience que cette grande crise du protestantisme va être aussi pour le peuple un moment encore de désillusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Et Saint Louis-Marie de Grignion de Montfort et d'autres à son époque. Attention, hein, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il est dans ce grand courant qu'on appellera plus tard l'école française. Avec les Bérulle, avec les Ollier, avec les Blaise Pascal, avec tous ces gens-là. De ce qu'on appelle l'école française. Un peu en frise avec le jansénisme qui, enfin voilà, il y a tout ce grand élan. Tout ce grand élan dont fait partie Saint Vincent de Paul, pareil, aussi. Et dont fait partie Saint Louis Grignion de Montfort. Et donc cet élan de j'aime pas le terme, de reconquête, mais c'est pas de reconquête, de réannonce. Aujourd'hui, là, on nous bassine un peu les oreilles avec ça, et c'est très bien, hein, avec la nouvelle évangélisation. En fait, on s'aperçoit que la nouvelle évangélisation, c'est quelque chose qui est arrivé relativement fréquemment dans l'histoire de l'Église. Et au XVIIe siècle, on est dans cette nouvelle évangélisation. On est dans cette nouvelle évangélisation. Donc, nous sommes sur la deuxième moitié du XVIIe siècle, et sur l'arrivée du XVIIIe. N'oublions pas que le XVIIIe siècle, dans la continuation un petit peu de la crise protestante, qui va donner à l'homme le jugement sur l'homme. Le fond du problème, il est là. Qui va donner à l'homme le jugement sur l'homme, et qui ne va plus réserver à Dieu le jugement sur l'homme, eh bien, va se continuer à travers la philosophie des Lumières. Il y a un fil rouge, de l'un à l'autre. Et la pourriture un petit peu qui va en sortir, eh bien montre bien que en profondeur l'Évangile a été un peu déraciné. Donc Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, il arrive dans cette période il ressent au plus profond de lui-même, de manière violente, l'urgence d'annoncer l'appel de Dieu, l'amour de Dieu, l'appel à la conversion. C'est tout simplement Jean-Baptiste. c'est simplement le Seigneur. Hein, tout simplement. Donc, il va avoir, effectivement, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va écrire, dans ce qu'il va faire, eh bien, cette dimension de, je dirais, d'exagération. Hein, d'exagération. Qui va réveiller les méfiances, puis ensuite l'hostilité, eh bien, de ceux qui devraient faire le travail à sa place. Pourquoi est-ce qu'il est en butte à l'église officielle, à laquelle il restera toujours impeccablement soumis, hein? Impeccablement soumis. Parce que quand il proclame la conversion, les évêques qui n'ont pas forcément envie de se convertir, les curés qui n'ont pas forcément envie de se convertir, ils le chassent. Il le chasse, tout simplement. Donc, sa vie va être la vie que nous pouvons trouver chez les prophètes. C'est-à-dire, une situation de rupture de l'alliance entre Dieu et son peuple. La conscience d'être appelé et envoyé par Dieu pour proclamer l'urgence de la conversion, en raison de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. D'une certaine manière, une voix dans le désert, même si on verra que les foules populaires vont accrocher de manière forte, hein, et profonde, hein, si on regarde les zones d'action de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort dans la Vendée, on se rend compte quand même que ça a encore porté des fruits un certain nombre de siècles plus tard. Et la persécution. Et on est à une époque où la persécution par l'Église officielle entraîne forcément une certaine persécution civile. Hein, parce qu'il y a encore un lien entre les deux. Donc, l'appel à la conversion. Et à travers sa vie, c'est l'exemple de tous les jours, la pauvreté de son style de vie, le vocabulaire, etc. Il est signe de cette conversion. Hein, il est signe de cette conversion. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est crédible, et c'est une des raisons pour lesquelles il va être cru et suivi par une partie de du peuple à l'époque, hein, et suivi, c'est que ce qu'il dit, ce qu'il proclame, il commence par le vivre. Et que cet amour et cette miséricorde qu'il proclame en disant qu'il faut les demander et les supplier pour nous, il commence lui-même par le demander pour lui-même. Avant de proclamer la pénitence, il est un pénitent. Avant de proclamer la conversion, il est quelqu'un qui cherche à se convertir. Et il cherchera toute sa vie à se convertir. Nous arrivons rapidement aux étapes, hein, en disant oh là là, j'ai fait un effort comme ça. Je me suis bien converti. Hein. Vous, je ne sais pas si vous avez, mais moi, je suis comme ça. Hein. Ah Seigneur, tu te rends compte, hein. Quand même, j'ai fait un sacré effort. Hein. Je vais faire une pause quand même là maintenant. Hein. Je vais faire une pause. Les grands saints, c'est pas comme ça. Hein. Les grands saints, ils voient toujours ce qu'il faut faire de plus pour se rapprocher de Dieu. Toujours. Il n'y a jamais de pause chez eux. Il n'y a jamais de pause. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est beau parce que c'est une marche dans l'amour. Et on comprend que quand nous, on essaye avec notre petit amour à nous, notre petite réponse d'amour. Hein, on voit bien déjà, on sent déjà bien que on a ce désir toujours de faire un peu plus, un peu mieux. Mais on met des pauses parce que c'est un tout petit amour. Un véritable amour, quand il est vécu de manière plénière, comme le vivent les saints, on comprend qu'effectivement, ce soit un élan permanent de se convertir, c'est-à-dire d'enlever en soi ce qui est un obstacle à la venue de Dieu. Hein? Attention, la conversion, c'est pas du masochisme, c'est pas, non. C'est enlever de notre vie ce qui fait obstacle à la grâce. C'est-à-dire à l'amour, au travail de l'amour de Dieu, à la force de l'Esprit Saint dans ma vie. C'est ça, la conversion. Nous, on voit toujours le côté négatif. Hein? Quand on arrive au carême, faut plus bouffer de chocolat, faut machin, ceci, etc. Bon. Hein? Tous les efforts de carême, tous ceux qu'on fait pour soi-même et surtout qu'on recommande aux autres. Monsieur le curé, c'est le carême, faut arrêter de fumer. Oui, écoutez, c'est le carême, faut arrêter d'enquiquiner le curé, d'accord? Non, je réponds jamais ça parce que je suis d'une douceur exemplaire, vous le savez. Hein. Mais donc, avoir cette conscience que les prophètes, de manière générale, mais Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort est tout à fait dans cette ligne, avant d'aller proclamer comme quoi que ce soit, ils commencent par le vivre pour eux-mêmes. La prophétie, ils se l'appliquent à eux-mêmes. Comme toute personne qui reçoit un message. C'est là où on voit qu'effectivement, ils ne parlent pas en son nom, mais ils parlent au nom du Seigneur. Et que dit-il ? Alors bien sûr, il parle, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est l'amour et la miséricorde, mais en quoi peut-on dire qu'il y a des prophéties de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ? Eh bien, il dit bien qu'il y a un appel à la conversion et que si on ne se convertit pas, il faudra en subir les conséquences que sont les flammes de l'enfer. Alors aujourd'hui, on est toujours un peu gêné par ce vocabulaire. Ça nous dérange, ça nous gêne. On croit seulement au paradis. Voilà. Mais non, je rigole. Voilà. Mais pour vous, je rigole. Malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est quelquefois un peu ça. On se simplifie la vie. J'ai eu hier une conversation avec une brave dame qui a fini par dire que, de toute façon, avec des gens comme moi, c'était normal qu'il y ait des attentats. Bon, ok, ça fait plaisir, c'est bien, bien. Donc voilà, et bien. Donc pourquoi ? Ben parce que effectivement, si on part du principe que de toute façon on ira tous au paradis, mais pourquoi est-ce qu'on on s'enquiquinerait à se convertir ? Non mais regardons les choses en face de nous. Pourquoi est-ce qu'on irait faire un effort pour supporter son voisin, puisque de toute façon, qu'on fasse l'effort ou qu'on ne le fasse pas, à la fin, on ira tous au paradis. C'est dans la chanson, complètement, vous avez raison. Non mais, il y a une petite logique que j'ai du mal à comprendre là. Pourquoi faire des efforts de conversion puisque de toute façon, ça ne sert à rien puisqu'on ira tous au même endroit ? Alors, ouais, vous croyez qu'il y a un enfer ? Oui, madame. Avec des gens comme vous, on comprend pourquoi il y a des attentats. Bien, merci. Ok. J'ai beaucoup prié pour elle. Et bon, mais voilà. Je pense qu'il y a une simple réflexion à avoir. Peut-être que j'ai été prophète et que c'est pour ça que j'ai été persécuté. Donc, ça veut dire que j'ai fait un effort de conversion, donc je vais pouvoir faire une pause. Non, mais ceci dit, effectivement, avec beaucoup de calme et de tranquillité, je me dis que quelque part, oui. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai essayé de transmettre. Alors peut-être qu'il y a eu aussi ma maladresse, etc., qui fait que la personne a pas vraiment entendu ce que je disais. Mais ceci dit, ce que j'annonçais, enfin ce que j'essayais de dire, c'était pas ce que moi je crois. C'était l'enseignement que j'avais reçu et que j'essaye de transmettre.
Que c'est les flammes de l'enfer, ce terme de flammes, de feu.
De flammes de feu, ben oui, mais le gros problème qu'il y a, c'est que oui, il y aura une souffrance, oui, il y aura une douleur.
Oui.
Oui. Ah ben oui. Mais il faut bien trouver des mots pour dire les choses. Le problème, il vient de là. C'est que nous avons des réalités à exprimer et que nous avons des mots qui ont leurs limites. Voilà, tout simplement. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y a des choses à exprimer. Et qu'effectivement, quand on exprime ces choses... Et donc, oui, Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, il va exprimer les choses avec le vocabulaire de son époque et un vocabulaire qui est le vocabulaire habituel à son époque. Quand on lit ce que disent les autres à son époque, Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, il n'est pas complètement exceptionnel. Il a un degré de virulence qui est un peu plus élevé que d'autres, mais il n'est pas complètement exceptionnel. Prenez Saint Vincent de Paul, il y a des écrits sur le refus de la conversion qui sont aussi assez forts, et qui et on retrouve par exemple chez Saint Vincent de Paul, c'est des écrits dont on parle assez peu, un peu comme le pape François aujourd'hui. Vous voyez jamais à la une du Figaro, de nos journaux, etc., de La Croix, etc., un article en disant le pape rappelle que si on cherche pas à vivre selon le Christ et on ira en enfer. Ben oui, mais si vous lisez le texte des sermons qu'il fait le matin à Sainte-Marthe, ben c'est ce qu'il dit. Et ça, on l'entend pas, ça. Hein. Saint Vincent de Paul, c'est à peu près la même chose. Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, peut-être parce que il y en a un peu à toutes les pages, effectivement, on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Et donc, en cela, il va être prophète. Il va rappeler que nous avons un choix à faire de manière radicale et absolue. Il y a un choix à faire dans notre vie, de manière radicale et absolue. Et que ce choix, nous avons à le vivre dans notre vie de tous les jours, au milieu effectivement d'une vie qui ne porte pas forcément facilement à cette conversion, en vue du royaume. Et c'est là où il y a la deuxième partie de la prophétie, hein, puisqu'il annonce déjà, d'une certaine manière, la venue du royaume sur cette terre par, et c'est là où effectivement il y a des, si on fait pas très attention, hein, par la puissance de Marie. Il annonce d'une certaine manière le règne de Marie. Attention. Hein, le royaume de Marie. Attention. Jamais il imagine que Marie prend la place de Jésus. Pas 30 secondes. C'est avoir mal lu Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort que de dire cela. Et il y a des gens qui le disent, et je redis tranquillement, qu'ils ont mal lu Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Parce que tout en Marie conduit à Jésus. Ad Jesum per Mariam. C'est une des clés de l'école française, dont Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort fait partie un peu sur le côté, mais quand même, hein, Ad Jesum per Mariam. À Jésus par Marie. Le but, c'est Jésus. Là-dessus, il n'y a aucun doute et aucun problème. Mais Marie, hein, est le chemin, la voie royale, qui conduit à Jésus. Ce seront un feu brûlant. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie. Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs, au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles. Et nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu, porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, la modestie et la mortification de Jésus-Christ sur leur cœur, dans toute leur conduite. Avec le Saint-Esprit, hein, Marie a produit la plus grande chose qui se puisse imaginer, Jésus, l'homme-Dieu. Hein, avec la puissance et la force de l'Esprit-Saint, Marie produit Jésus d'une certaine manière, l'enfante pour le monde. Hein, et jusqu'à la fin des temps, elle va enfanter Jésus dans le monde. Jusqu'à la fin des temps, elle va enfanter Jésus dans chacune de nos vies. À partir de ce moment-là, c'est par Marie que le salut du monde a commencé et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ses derniers temps. Donc la prophétie de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, elle est donc, on trouve dans sa vie, tous les éléments qui font dire que Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort est prophète. L'urgence des derniers temps, l'urgence du temps, la rupture de l'alliance, l'arrachement à une vie pour entrer dans une vie de proclamation, une parole qui n'est pas la sienne et qui est une parole forte, on peut presque dire violente, parce qu'elle est enracinée dans un amour absolu, qui entraîne une certaine persécution. Et cette parole, elle appelle à être dans le temps, de manière immédiate, dans la conversion personnelle, et elle est symbole d'une venue ultérieure de Dieu à travers, chez Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, le règne de Marie, d'une certaine manière, dans nos cœurs, ce règne de Marie enfantant Jésus dans notre cœur. Donc, oui, nous pouvons le dire de manière très claire et très nette, Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort est un prophète. Le problème, à quoi sert-il? Quel va être, d'une certaine manière, entre guillemets, le fruit et l'efficacité de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort? Eh bien, ça dépend de la disponibilité de notre cœur. Si, à notre tour, ayant reçu cet appel de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, Et nous le recevons à travers tout ce que nous allons lire de lui, par exemple, puisqu'il a été mis là sur la table. Je l'ai pas ouvert, mais c'est pas parce que je l'ai pas ouvert aujourd'hui que je l'ai pas ouvert avant et que je ne l'ouvre pas en ce moment et que je l'ouvrirai pas demain. Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, hein, et puis la sagesse éternelle, enfin, etc. Hein. C'est à travers la méditation, la lecture de ces textes, que nous allons recevoir l'appel du prophète, l'enseignement du prophète. Et là, il y a deux solutions. La première, c'est « Oh là là, comme c'est bien écrit, vraiment, ça fait plaisir à lire, ça porte vraiment, c'est fort, ouais. Ah, il y a des valeurs, il y a des valeurs. » Ouais, d'accord. Et après, ah ben, la semaine dernière, j'ai lu le dernier Goncourt, vraiment, c'était extra... Oui, d'accord, ok, le Saint-Marion de Montfort, c'est le Goncourt, il y a le Goncourt, donc la semaine prochaine, vous aurez le prix interallié, et puis, etc. Quoi. Oui, pourquoi? Il y a une différence? On peut lire Saint-Marion, enfin, comme on peut lire l'Évangile, comme on peut lire... Alors, vous savez, ces gens qui viennent me voir, qui disent, voilà, j'aurais besoin d'une Bible parce que je veux lire la Bible. Ça n'a aucun intérêt! Ah, bah, attendez, vous êtes le curé et vous dites que ça n'a aucun intérêt de lire la Bible. Oui, c'est pour la lire comme un roman, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors attention, la personne qui vient me voir et qui me dit je veux lire la Bible, je lui réponds pas ça. Hein. Mais ceci dit, je suis profondément persuadé dans ma tête que si elle reste sur cet esprit-là, ça va servir à rien. La meilleure preuve, c'est que ça fait des décennies et des décennies et des décennies qu'on distribue des Bibles et des évangiles partout, que on en met dans les hôtels, les machins, etc. Non. La Bible, il faut qu'elle soit accueillie comme ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc, s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour dire que cette parole est la parole de Dieu... Nous avons à être les Philippe de notre monde. Souvenez-vous, après la résurrection et la Pentecôte, hein, l'eunuque qui descend dans son chariot, là, en direction de Jéricho, et qui est en train de lire la prophétie du livre d'Isaïe. Et Philippe qui passe à côté de lui et qui lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et comment le comprendrais-je si personne ne me l'explique ? Donc nous avons à prendre Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort comme nous avons à prendre la parole de Dieu pour qu'elle nous convertisse, pour qu'elle nous convertisse, pour qu'elle nous change et que nous puissions ensuite aller vers le monde pour porter la même parole. Parce que d'une certaine manière, je dirais, c'est le dernier point de ce qu'est un prophète, c'est un transmetteur de relais. Il a reçu et il transmet. Nous avons à recevoir et nous avons à transmettre. Nous avons à être autant prophètes que Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, avec toutes les composantes que cela entraîne. Si je veux être prophète comme Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, je dois être un, profondément enraciné dans l'amour de Dieu. Donc, profondément enraciné dans la recherche d'une communion plus grande par la prière, et d'une connaissance plus grande par la formation et l'enseignement. Tout ce que vous avez reçu ce matin. Par exemple, l'adoration, par quoi nous avons commencé pendant une demi-heure, l'enseignement, qui enracine en nous cette connaissance de l'amour de Dieu et de ce que cela doit entraîner pour nous, à travers sa miséricorde et le feu brûlant que ça va déclencher en nous. À partir de ce moment-là, nous allons avoir à dire et à proclamer, en sachant que cela entraînera des persécutions. Mais n'oublions pas, hein, heureux êtes-vous, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi et de l'Évangile, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom sera grand dans les cieux. Donc oui, comme Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, à l'image du Seigneur, nous avons à annoncer la venue du royaume. Et cette venue du royaume, nous avons à l'annoncer de manière suffisamment explicite pour que les gens fassent le lien entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Et c'est par cela que je voudrais terminer. Depuis une quarantaine d'années, il y a eu dans l'Église, pour des raisons qui sont des raisons tout à fait légitimes, valides, qu'on commence à reconstruire et à bien déterminer historiquement, une certaine volonté d'enfouissement. Ça a été une ligne. Et donc, il fallait vivre. Et en vivant, on allait être le levain dans la pâte. Ça n'a jamais été véritablement la ligne, non pas de l'Église, mais même du Seigneur. Pourquoi l'enseignement du Seigneur a été reçu ? Parce qu'il vivait ce qu'il disait. Mais ça a été reçu parce que ce qu'il vivait, il le proclamait dans son enseignement. Donc nous sommes là à la croisée des chemins, en ayant ce désir de reprendre cette proclamation explicite du kérigme, de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Mais en n'oubliant jamais que cette proclamation de l'Évangile, elle ne pourra toucher le cœur de certains de ceux à qui nous adressons que si d'abord nous nous proclamons à nous-mêmes l'Évangile et l'urgence de la conversion. Je vous remercie.
Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673-1716, prophète, point d'interrogation, c'était le thème de la conférence de Don Maurice Franc, conférence enregistrée le 23 novembre 2017 lors d'une récollection de l'amitié montfortaine à l'église Sainte-Thérèse de Biarritz.